Laughter!
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 87, aujourd'hui la seconde émission consacrée au livre de Monsieur Frédéric Delavier, Sexe contre énergie, qui est une étude des rapports hommes-femmes contemporains basée sur l'analyse de l'évolution de nos ancêtres via notamment la paléontologie. En effet, le point de départ de notre espèce se situe à un embranchement il y a plusieurs millions d'années lorsque nos ancêtres primates se scindèrent en deux groupes dans la brousse arborée, ceux qui allaient chercher les ressources tous ensemble avec mâles, femelles et petits, et le second groupe qui laissait les femelles et petits dans les arbres pendant que les mâles allaient chercher ces mêmes ressources. Ce second groupe a eu beaucoup moins de pertes et a donc gagné la course à l'évolution. De ce mode de fonctionnement a découlé nombre de pratiques sociales qui, encore aujourd'hui, de par la transmission génétique intergénérationnelle, font totalement partie de notre construction et de notre psyché, consciente ou inconsciente. Mais tout d'abord, un nouveau communiqué de Maître Hamas, avocat spécialisé dans la lutte contre les placements abusifs et qui intervient dans la France entière. Il nous explique l'enfer que peuvent vivre les parents, en particulier les pères, quand ils sont confrontés à la justice familiale ou la justice des enfants dans notre pays au XXIe siècle. Impossibilité d'avoir les pièces, inaction de l'institution ou au contraire surréaction de certaines institutions pour les détails, avec intervention de personnes parfois bien intentionnées mais parfois autoritaires, médiocres et désabusées, pour des budgets dont la somme totale dépasse celle de l'administration pénitentiaire. Il faut absolument reprendre un mode de fonctionnement serein pour la gestion de nos familles, automatiser la gestion des divorces, pénaliser sous forme d'amendes les NRE, non-prestations d'enfants, et surtout mettre en place une autorité de contrôle et de régulation des services sociaux avec des mesures de protection des usagers dans les tribunaux des enfants, audiences filmées, etc., etc. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille et j'interviens depuis 2 ans en matière d'enfance en danger. J'ai un père qui depuis 1 an et demi tente de voir son enfant. Il a un droit de visite, 1 week-end sur 2. Depuis 1 an et demi, la mère ne représente pas l'enfant. Elle lui donne pas. Ça fait 1 an et demi que tous les week-ends, cet homme dépose une plainte au service de police disant elle commet l'infraction de non-représentation d'enfant. Il y a quelques semaines, ne voyant rien venir, j'écris au parquet du tribunal de grande instance, tribunal judiciaire, en disant où en est cette procédure, et j'ai la stupéfaction de recevoir ce courrier aujourd'hui, dans lequel il m'est indiqué par le parquet que, concernant le dossier de mon client, pour l'instant, il n'y a aucune suite et qu'il faut que je réécrive le même courrier dans 3 mois. Voilà ce que c'est que l'enfance en danger en France. C'est une fumisterie. C'est une fumisterie. Il y a des gens, on leur place leur enfant quelques secondes d'une manière extrêmement violente. J'ai, la semaine dernière, un enfant qui a été arrêté à l'école par des services de police. Ils sont venus le prendre, c'est-à-dire que dans la classe de cet enfant, on pense que le petit Simon a été arrêté. Et dans d'autres dossiers où il y a une violence de la part de la mère, où il y a une incompétence du juge pour enfants que j'ai saisi, des services de police que je saisis toutes les 2 semaines depuis maintenant 1 an et demi, et il se passe ça. C'est-à-dire qu'il se passe, on a décidé dans le dossier de ce type de faire rien. C'est ça ce qui se passe en France. C'est ça la justice des mineurs aujourd'hui en France. Alors on a beau faire des émissions, vous montrant un avocat tout propre, dans une salle d'audience toute mignonne, avec des enfants tout bienveillants, des services sociaux super, mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, il y a une inaction, il y a un je m'en foutisme total des services de police, un jeu-foutisme total des juges et un rôle des services sociaux qui est inacceptable. Voilà, c'est ça. Il faut vous révolter, il faut partager, il faut qu'on puisse saisir de manière directe le ministre de la Justice, il faut que ça s'arrête. Il y a quelques jours, il y a un type qui s'est suicidé avec son enfant, qui est à... Le juge lui a donné l'enfant, paf ! Il a tué l'enfant, il s'est suicidé. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle en France.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui deuxième émission avec Frédéric Delavier, auteur à succès, qui nous parle de son ouvrage « Sexe contre énergie » et surtout de ce que nous pouvons en déduire dans le monde moderne. C'est l'aspect qui nous intéresse, nous aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, qui avons en nous cette part d'animalité qui vient de cette évolution qui a duré des millions d'années pour aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui. Par rapport à la discussion de la semaine dernière, est-ce que en fait vous êtes en train de nous expliquer que la violence intrafamiliale provient d'une part d'animalité que nous maîtrisons mal mais qui est encore présente en nous ?
Ah mais bien sûr. Bien sûr, particulièrement chez les hommes. Le fait d'être quitté pour un homme va générer justement ce manque et ce besoin de possession. Hein. L'homme possède sa femelle pour pouvoir la nourrir. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais ça a été comme ça pendant des millions d'années. On protège le territoire et les femmes. Et les enfants, éventuellement, c'est une programmation pour les femmes, nous permettant aux hommes d'atteindre quelque part l'immortalité par la transmission génétique. Donc il y avait, sans en avoir la conscience, on a les programmations pour ça. C'est ceux qui se comportaient de telle façon, qui ont les plus territoriaux, hein, les plus possessifs avec leurs femmes, les plus attentifs aussi, hein, pour ce qui est de nourrissage, hein, ont pu le mieux transmettre leurs gènes. Et les femmes, justement, qui cherchaient ces hommes-là, ont pu transmettre le mieux leurs gènes. C'est une base, hein, à l'humanité. Alors évidemment, d'une civilisation à l'autre, ça change complètement. Quand on arrive aux civilisations du Nord, les Africains qui sont montés au Nord, hein, on va dire des pré-sapiens qui ont fait Néandertal, et ensuite des sapiens qui se sont mélangés. On sait que maintenant, ça a beaucoup plus tourné, il y a eu beaucoup plus de montées au Nord qui sont isolées. Donc on sait maintenant qu'il y a bien plus de sous-espèces humaines qui sont nées. Mais globalement, au Sud et au Nord, on a vu naître deux mentalités très différente dans la façon de vivre la relation du couple.
Oui, vous contextualisez géographiquement l'évolution des rapports hommes-femmes par rapport effectivement au climat en disant que là où la dépendance est plus forte et là où le climat est beaucoup plus rigoureux, les comportements sont différents.
Voilà, sont différents. Alors rigoureux, ça dépend. En Afrique subtropicale, en Afrique tropicale humide, t'as énormément de bactéries, mais l'accès à la calorie est extrêmement, n'est pas problématique. C'est sous les tropiques, baigné par la lumière du soleil, c'est très riche, la nourriture est là. Le problème, c'est le foisonnement de la vie génère aussi un foisonnement bactérien et la possibilité de mourir moins par un prédateur que par un microbe, hein, une bactérie, un virus. Mais au nord, le véritable problème, c'était le froid, hein, et les pathogènes respiratoires, principalement pour les femmes et surtout pour les enfants. Hein, principalement pour les enfants. Donc, les femmes étaient obligées de rester près du foyer, s'occupant de la nourriture, peut-être aller chercher les animaux à côté, mais dans un espace assez réduit. Mais elle ne pouvait pas partir avec le petit sur le dos dans un climat qui devenait relativement froid, alors surtout pendant les périodes glaciaires, mais même pendant une période tempérée, c'était encore problématique, à cause des pathogènes respiratoires, donc des bactéries et virus, qui ont tendance à proliférer en hiver dans les zones respiratoires. Et ça, sans le savoir, c'est ceux qui restent, les femmes qui restaient le plus près du foyer, avec les hommes qui allaient à l'extérieur bien protégés, qui ne sortaient pas, qui ne mettaient pas leurs enfants à l'extérieur. On sait très bien que les enfants leur disent ne sors pas, n'attrape pas froid. C'est pas attraper froid, c'est que la descente en température des bronches va générer une prolifération bactérienne ou virale, qu'on peut voir avec le Covid, actuellement, la remontée, hein. C'est tout simplement que les pathogènes respiratoires activent leur prolifération quand il y a une baisse de température qui correspond en général à une baisse du système immunitaire des individus au nord, alors pas que les hommes, hein, tous les vertébrés sont chauds, hein, globalement, qui au nord risquent d'avoir une baisse du système immunitaire à cause du manque de nourriture déjà, hein, on s'affaiblit, et aussi le manque de vitamine D, hein, donc on va être moins résistant aux pathogènes, mais en même temps, on va rien faire, on va rester près du feu à l'époque, on ne bougeait pas. Donc les femelles restaient près du foyer et les hommes allaient chercher la nourriture uniquement pour éviter la prolifération bactérienne et la mort des petits.
Donc elles étaient plus dépendantes.
Alors on le ressentait pas comme ça, mais ça s'est mis en place. Ce sont les structures.
Non, mais on le constate. On voit que la femme, par exemple, est beaucoup plus indépendante et autonome dans les pays chauds. Moi, j'ai vécu en Asie. Elles sont toutes à leur compte. Elles ont une petite boutique. Elles se débrouillent. Elles sont rentrées dans les mœurs. Hein. Elles sont toutes freelance. Ouais. Elles ont toutes leur business. Hein. Vous aviez parlé du concept des femmes d'affaires en Afrique. Donc, je pense qu'il faut savoir contextualiser la culture. Je crois que effectivement,
oui,
les cultures proviennent de notre évolution par rapport au climat et donc à la géographie. Oui,
voilà, la géographie. C'est pour ça qu'en Afrique, on voit énormément de femmes d'affaires parce qu'elles pouvaient sortir avec leurs petits et s'occuper de la production. Alors, en général, de s'occuper de la terre, de s'occuper de faire fructifier les champs. Alors, il n'y a pas besoin de gérer une accumulation calorique, un peu comme à l'époque, à partir du néolithique, comme en Europe, hein, où il faut passer l'hiver à la mort de la nature. Eux, c'est une culture permanence. On plante, on récolte, on plante, on récolte, on mange, on plante, on récolte, on mange. L'Européen, lui, il va planter, récolter, stocker, manger. Eux, ils ne stockent pas. Mais les femmes africaines étaient au champ, partaient au champ. Évidemment, ils avaient éloigné déjà les prédateurs et les hommes s'occupaient de la gestion du territoire, c'est-à-dire de la protection du territoire contre, globalement, les autres hommes. En général, on sait ce que c'est que les humains entre eux. Donc, ils protégeaient leur territoire, protégeaient leurs femelles. C'était les femmes, c'est les femmes qui étaient à la production et à l'éducation des petits. Les hommes étant dans la garde du territoire, ce qui peut faire paraître l'homme africain par rapport à un homme européen pour féminin, mais l'inverse marche aussi. Pour un Africain, l'homme européen va paraître féminin puisque c'est lui qui va s'occuper de ramener l'énergie. C'est un peu grossier, mais c'est ça.
RLP 102.3, toujours avec Frédéric Delavier. Monsieur Delavier, je vous ai écouté très attentivement. J'ai lu votre livre, hein, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je voulais en discuter. Bon, je vous dirai à la fin, je dirai à tous les papas qui nous écoutent, et les mamans aussi, effectivement, ce que j'en pense et comment on peut le globaliser. Mais j'ai quelques questions. Je m'occupais à une époque des permanences. Les permanences, vous savez, c'est notamment, bon, c'était les hommes qui venaient me voir. Hein, c'est comme ça, les permanences périgueuses, c'était celle de Paris aussi, c'est les hommes qui venaient nous voir, et c'était des hommes généralement qui n'arrivaient pas à voir leurs enfants. Et ils avaient d'immenses douleurs. Certains étaient capable de vendre absolument tout ce qu'ils avaient, mais tout. Ils vendaient dans leur voiture, ils vendaient leur maison, ils vendaient leurs biens, ils arrêtaient de travailler, uniquement pour pouvoir avoir accès aux enfants. J'ai bien creusé, c'est pas parce qu'ils étaient amoureux de leur ex, c'est pas parce qu'ils souffraient que leur ex soit parti, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus intervenir dans l'éducation de leurs enfants, transmettre leurs valeurs, pas leurs gènes, leurs valeurs. Comment vous expliquez ça?
Parce que c'est des sélections encore, hein. Les petits qui ont le mieux survécu, c'est ceux qui avaient l'attention du père et de la mère. Donc, ça va générer un manque pour l'homme, hein, un manque de ses enfants, hein, parce qu'il a besoin de les nourrir et de les éduquer, puisqu'il est obligé de lui transmettre aussi plein de valeurs, des valeurs masculines, pour un homme, conquête, tout ça, aller chercher l'énergie, que la mère ne peut pas forcément donner. Alors maintenant, elles le font, hein, puisque notre monde change. Il n'y a plus cette dépendance de la femme à l'homme, puisque maintenant, l'État a remplacé un peu...
Oui, mais la douleur est tellement profonde qu'elle vient forcément de quelque part. Si vous voulez, on vous arrache un enfant, c'est comme si on vous coupe un membre. La CALPA en parle très bien, les études ont été faites. Ne plus avoir accès à un enfant, c'est une douleur intellectuelle énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a des racines profondes qui viennent de cette époque-là. Ce n'est pas récent. Donc, la douleur de ne pas pouvoir parler à un enfant. Vous expliquez la douleur de perdre son ex-compagne, mais la douleur de ne plus pouvoir accéder à l'enfant, même si on sait qu'il est vivant. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi forte et aussi présente?
Parce que depuis qu'il y a ce partage des tâches, les groupes qui ont le plus survécu, c'est ceux qui avaient l'attention pour l'éducation des petits, des mères et des pères. Les mères s'occupant en général au foyer,
Au niveau primate aussi, nous avons des papas, des pères qui s'occupent des petits et qui ont leur part dans l'éducation des enfants, des petits.
En général, l'homme retire le petit du giron familial, du giron maternel. Hein. C'est-à-dire que la mère est protectrice, la mère est pas castrée, mais elle conserve le petit près d'elle comme faisant partie d'elle-même, puisque c'est un attachement viscéral.
En protection, d'accord.
Voilà, la femelle, la femme conçoit toujours le petit comme une extension d'elle-même. Hein, elle se sent, même quand une femme va mourir, elle n'a pas cette angoisse réelle de la mort qu'on voit dans les hommes.
Aujourd'hui, très souvent, quand ça se passe mal, c'est « je te quitte, et je prends les enfants. Encore aujourd'hui, ce réflexe est resté. Hein. J'ai lu beaucoup de dossiers dans les tribunaux, c'est comme ça que ça se passe.
Je prends les enfants qui
quand ça se passe mal, ça se passe comme ça, disons. Voilà.
Ouais. Ils sont moi, puisqu'ils sont ici de sa chair. L'homme n'a pas ce sentiment. Mais l'homme a ce besoin d'éduquer les petits. Il a besoin d'éduquer les petits. En général, il a besoin d'éduquer les petits mâles. C'est ce qui se passait, puisque les femmes, excuse-moi, parce que c'est bon, les femmes, en général,
J'ai fondu sur ma fille, hein. Elle tenait là, dans la main, là, elle tenait dans le creux de ma main, comme ça. Et il s'est passé un truc, hein. Franchement, il s'est passé quelque chose. Toutes mes conceptions ont évolué, mes comportements ont changé, il s'est passé quelque chose, hein. Et c'était pas un garçon, c'était une fille, hein.
Mais on a un attachement à nos enfants, puisqu'on est obligé de les former pour devenir des petits hommes sociaux. Des petites femmes et des petits hommes sociaux. Alors, en général, les femmes, traditionnellement, les éduquaient les petits, alors en Europe hein, particulièrement, parce qu'en Afrique, c'est encore un peu différent, aux valeurs du bien et du mal, tu sais, les contes de bonnes femmes. Hein. Alors, les contes de bonnes femmes, pourquoi? Parce que ce sont des contes qui sont un peu irréalistes dans leur façon, puisqu'elles n'ont pas accès au monde extérieur où l'homme allait faire ses conquêtes énergétiques et l'homme lui rapportait que des bribes, que des histoires, et souvent des histoires exagérées de ses chasses, ou de ses relations avec les autres, pour bien se faire voir de sa femme. Tout le temps des histoires mythifiées par
les hommes. Oui, il y a des chapitres là-dessus qui sont savoureux, bien sûr. Oui,
voilà, et les femmes après vont raconter à leurs enfants des histoires, des contes de fées, hein, c'est des contes de bonnes femmes, hein, des contes de fées, mais la valeur du conte de fées, c'est pas la réalité de l'histoire, c'est de donner aux petits la valeur du bien et du mal pour être des animaux sociaux qui vont pas détruire le groupe. Ça, c'est la valeur du conte de fées. Inscrire dans la tête des petits le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Et ça, on le trouve dans les contes de fées. C'est la valeur que les mamans transmettaient puisqu'elles avaient un monde imaginaire, hein, qu'elles recevaient des hommes puisqu'elles restaient près du foyer. Pas parce qu'elles voulaient rester près du foyer parce que les hommes les empêchaient de partir, parce que le milieu bactérien les empêchait, hein, de partir avec les petits. Une femme qui aurait voulu être comme un homme et une chasseuse qui prend son petit, ça pose un problème. Elle peut pas le nourrir au sein. Elle le prend dehors, il meurt d'une pneumonie, tu vois. Donc, c'est pas tellement valable. Tandis que l'homme, lui, va éduquer ensuite les petits. Il récupère les petits, alors pas les femmes, les petits. Mais bon, il s'attache à tous les petits. Il prend le petit mâle, le petit homme, et il l'éduque aux techniques. Il éduque au monde réel. Hein, tu seras un homme, mon fils. Hein, c'est un peu prétentieux, mais il est au monde dur des hommes, qui est un monde de conquête et d'affrontements entre les hommes pour l'énergie, le territoire et les femmes. Très primitif, hein, très primaire, il faut se sortir de ce schéma, hein, quand on m'entend, je cautionne pas. Sûr.
La société évolue, nous arrivons au jour d'aujourd'hui au 21e siècle, et au 21e siècle, nous avons des pères contemporains qui ont des comportements extrêmement différents de ceux de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Madame Castelin-Meunier nous dira que ces comportements ont changé à la révolution industrielle, lorsque vraiment les séparations des tâches ont été renforcées par rapport à ce qui se produisait avant. Elle nous explique, pour elle, c'est un rééquilibrage par rapport à ce qui se passait avant. Et elle dit qu'en fait, que la demande des pères aujourd'hui de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants est un rééquilibrage par rapport à ce qui s'était passé auparavant, qui avait été déformé par la révolution industrielle. Si on remonte encore plus tôt, vous confirmez ou vous infirmez?
Il y a eu un changement avec la révolution industrielle. Véritable. C'est là où les femmes ont perdu une grande partie de leur fonction. C'est-à-dire qu'avant, une vie de femme se passait près du foyer. Hein, on n'allait pas faire ses courses, on ne mettait pas un plat au micro-ondes et on passait pas l'aspirateur.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la demande des pères contemporains de vouloir s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, même lorsque le monde fait qu'on s'était de recomposition, on se sépare parfois de sa femme. Mais on veut pouvoir continuer à avoir l'accès de leurs enfants. Est-ce qu'on peut trouver l'origine de cette pulsion, de cette demande, aussi dans notre histoire biologique?
Bien sûr.
D'accord.
Comme je dis, à partir d'un certain âge, l'homme va prendre le petit, alors en général c'est le petit mâle qui va prendre et qui va éduquer.
Oui.
Il aime ses filles, mais il va prendre le petit mâle et l'éduquer. Le problème de la fille, de la petite fille, est différent. À partir d'un certain âge, la petite fille, tu vois autour de toi des problèmes entre mère et fille. Quand la fille commence à devenir une adolescente, ça devient souvent une concurrence pour la femelle, pour la femme. Et la femme va avoir un combat entre la petite fille et elle. Il y a une concurrence, elle va voir une femme arriver alors qu'elle vieillit, et il va y avoir une mésentente souvent, et on va s'engueuler avec la fille, on va la repousser. En général, c'était fait pour faire partir la fille du foyer et la mettre dans une autre famille. Les grandes migrations humaines, ça n'a pas été des hommes qui se sont déplacés. C'est à partir du moment où il y a eu une population
relativement... Dans les sociétés tribales, on éduque la fille et quelqu'un avec une dot vient et celle-ci change de famille.
Ouais. Elle va changer de famille et à ce moment-là, elle va prendre les us et coutumes de la famille dans laquelle elle tombe.
On faisait ça chez nous en Europe, ça ? C'était vraiment...
Ça se faisait partout. Hein. Et elle va, pas en Afrique, parce que c'est des endroits très... des noyaux tribaux, où tout le monde... où il y a une structure différente. Mais on va dire qu'en Europe, depuis 50 000 ans, et même plus, ça se passait comme ça. Tu vois, même depuis le paléolithique, néolithique, ça se passe comme ça. On échange des femmes. Ça fait de la diversité génétique, et les femmes vont dans la famille de l'homme. Et là, elles apprennent us et coutumes de la famille dans laquelle elles sont. Les hommes, eux, étant chargés de rester sur le territoire, leur territoire familial, pour gérer ce territoire, le protéger, le faire fructifier et accueillir les femmes. Ça, c'est la base. Donc, c'est pour ça que les hommes sont très territoriaux et les femmes passent d'un territoire à l'autre. C'est pour ça que les femmes ont cette capacité, on le sait très bien, d'être en général très très bonnes, des polyglottes, de parler plus facilement des langues étrangères. Et quand on s'aperçoit, par exemple, quand, t'écoutes, quand tu dis l'indo-européen, tu aperçois que la structure du langage, on va dire qu'a structuré un peu tout le langage familier, vient des femmes. C'est les femmes qui ont transmis partout tous les mots familiers. Dans toutes les familles, est-ce que c'était elle qui allait d'une famille à l'autre? Et chaque génération, t'en avais une qui allait dans un village un peu plus loin, un peu plus lointain. Alors au début, ça s'échange avec les chasseurs-cueilleurs, on peut regarder aussi. Et ensuite, ça passe de plus en plus loin et ça se transmet. Et t'as les femmes qui bougent. C'est pour ça que les femmes ont cette espèce de passion pour la mode. Cette espèce être à la mode, c'est ressembler aux autres. Tout simplement. C'est une impersonnalité féminine. On dit, ouais, non, c'est une qualité. L'impersonnalité féminine est une qualité qui était transmise, qui permettait à la femme de s'adapter et de prendre les habits, les coutumes et la langue du coin et de ne pas faire de vagues. Être à la mode, c'est être comme les autres, quelque part. Et la femme est à la mode. À l'homme, tu regardes, tu t'arrêtes dans les magasins, dans les pompes à essence sur le bord de l'autoroute, ils vont vendre des livres de sport et de voitures. Pour les hommes, c'est-à-dire montrant la performance. L'homme ne veut pas être à la mode, il veut, on lui vend de la performance, être plus fort que le voisin pour avoir le territoire et les femmes. C'est encore comme ça, regarde les pubs pour les parfums, c'est le champion qui gagne, il a la femme, tout ce que tu veux.
Ouais,
les
femmes, ils s'adressent à ce qu'on appelle nos bas instincts, mais c'est vrai qu'ils sont encore présents.
Voilà, les marchands ont compris.
Ouais.
Des fois, ils n'ont même pas compris, ils le font instinctivement. Et la femme, on va lui vendre le fait de ressembler à telle star, tu vois, le fait d'être à la mode, tu vois. Je regarde les émissions télévisées l'après-midi, pas victime de la mode, je sais pas, les nanas qui viennent chercher des habits, qui viennent...
Vous, quelque part, notre lutte, notre quête pour avoir l'égalité homme-femme dans la famille, après que la femme ait fait un combat pour avoir l'égalité homme-femme dans le monde du travail, cette espèce de transformation qui s'effectue, bien sûr, c'est la modernité, c'est le monde qui évolue, nous ne sommes plus des primaires dans des...
Oui, oui.
Forcément, Dieu merci, j'espère qu'on n'aura pas un effondrement demain, on a certaines choses. Mais
ça
donc,
s'est passé très vite, ce qui pose des problèmes.
Alors, ça s'est passé très vite au regard du temps. Certains disent que ça se passe très lentement, mais quand on regarde depuis les primates jusqu'à aujourd'hui, la quantité de modifications sur, on va dire, les derniers 1 ou 2% de temps est phénoménale. Ça, c'est comme ça qu'on va le regarder, en fait. Oui.
Ça a accéléré, ça s'est accéléré avec les modernisations des techniques. Les femmes ont été dépossédées quelque part, quand on dit les hommes prenaient la place des femmes, ils les dominaient pas du tout. C'est que les femmes ont été dépossédées de leurs fonctions dans un premier temps à cause de l'industrialisation et de l'évolution technologique. Elles étaient obligées avant, elles étaient à la maison pour qu'une famille passe bien, devaient faire le marché, plumer la poule, la faire chauffer, y aller tout le temps, aller au lavoir, nettoyer les affaires en permanence, ça prenait un temps fou, faire le ménage avec des balais qui étaient faits de branches, nettoyer, elles allaient jusqu'à faire la couture, même s'il y avait certaines qui faire leurs propres habits, avoir leur fil, leur rouleau à pour faire le fil là, tout ça, c'était toute une vie de femme qui passait autour du foyer. Maintenant, l'évolution des techniques a fait que ça leur a enlevé ça. Tu fais une machine à laver, t'appuies sur un bouton. Hein. Tu veux cuire une poule, tu sors une poule congelée du congélateur, tu la mets décongelée et tu la mets au four micro-ondes.
Oui, mais dans le même temps, le monde s'est complexifié. On a vu que nos intervenants, ce qu'on demande aux gens et aux enfants dans leur croissance, c'est beaucoup plus complexe qu'auparavant. Il y a des caméras partout, des appareils photo partout, des gens qui
beaucoup
regardent.
Plus
beaucoup plus technique. Donc les efforts demandés au cerveau sont beaucoup plus importants. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, le combat aujourd'hui.
Ils ne sont pas plus importants. Ils sont plus précis et plus technologiques.
La quantité d'informations assimilées pour survivre est plus importante. On en a parlé avec Joël Monzé. D'Artagnan avait 12-13 ans quand il part sur les routes. Il arrive à 17 ans à Paris pour être avec le mousquetaire du roi. Et on n'imagine pas aujourd'hui un gamin de 12-13 ans partir à La Rochelle combattre les brigands. Vous voyez, le niveau d'exigence est beaucoup plus haut.
Alors, le niveau d'exigence avant était plus lourd. Le savoir que devait accumuler un homme pour survivre avant était plus lourd. C'est vrai que les cerveaux étaient plus gros. Il n'y avait pas la possibilité de stocker de l'information dans des livres, sur des ordinateurs ou ailleurs. Donc, par exemple, un Cro-Magnon, pour vivre, il était obligé de connaître tout son milieu et d'avoir une mémoire par un enseignement oral monstrueux. Donc, c'est une interface sonore qui en était une interface entre le monde et toi qui devait être énorme. Donc, ils avaient un gros crâne avec un plus gros cerveau que nous. Nous avons un cerveau qui a rapetissé, pas parce qu'on est plus bête, parce que les tâches ont été partagées. On est une hyper-complexification de notre société avec des gens hyper-techniciens. Un homme de Cro-Magnon, il était obligé de connaître tout son milieu. Il faisait ses pierres, il chassait, il coupait sa viande, il devait connaître son territoire, il devait connaître les gens de son milieu. Il devait avoir une connaissance monstrueuse et une mémoire monstrueuse de son milieu. Maintenant, ça a changé. T'as pas besoin d'avoir une connaissance globale. Chacun a sa connaissance et on échange des technologies. Mais tu es obligé de te former technologiquement dans un domaine très précis et de le maîtriser. Donc toute une éducation, toute une recherche qui est faite pour pouvoir trouver à son petit la bonne filière pour qu'il ne soit pas un pauvre type ne pouvant pas se reproduire, tout simplement. Donc c'est énorme.